Et 14h tout pile sur les ondes du 101.2, on est de retour pour continuer notre semaine.
14h18, c'est mon ordinateur. Ou t'es pas connecté à mon ordinateur.
Non, j'ai tellement l'habitude d'être à l'heure en fait.
Effectivement. En effet, on est en retard. Voilà, mais assumons-le.
On l'assume. Donc 14h18 exactement.
Bonjour Evry.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Eh ben ça va super.
De la bonne humeur tout le temps. Je rappelle effectivement que nous sommes en direct du Prunier Sauvage depuis le début de la semaine et ce jusqu'à vendredi pour une série d'émissions spéciales des ateliers d'éducation aux médias. Tout cela en partenariat avec le Prunier Sauvage. Bonjour Brahim.
Bonjour Farid.
Je t'ai touché en fait.
Ouais,
on n'a pas le droit normalement. Hein. Ouais, je suis désolé.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Prunier Sauvage encore une fois.
Donc alors aujourd'hui une émission dans le cadre de la discute, une émission spéciale donc médias et quartiers populaires. Saleha Benarbia va pas tarder à nous rejoindre, elle est journaliste au Dauphiné Libéré. Elle est sur la route. Edouard Zombro est avec nous, journaliste spécialiste sur les banlieues et les questions sociales. Il vous présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Bonjour Edouard.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous.
Un peu de loin, ouais, malheureusement.
Un peu de Paris, hein, c'est ça. Hein.
Ouais.
Voilà, un peu de loin, mais la technologie nous permet.
Près de Paris.
Voilà, près de Paris. Et Damien Borilli, journaliste à France 3. Bonjour.
Bonjour à tous et ravi d'avoir été invité, de pouvoir discuter avec vous cet après-midi.
Ben, merci d'avoir répondu.
Ravi en plus d'être ici au Prunier Sauvage, qui est un super lieu culturel et de rencontre.
De l'agglomération grenobloise. Merci Damien d'avoir répondu présent déjà. Alors, la discute aujourd'hui, médias et quartiers populaires. On aurait dû commencer par Saleha Benarbia, mais voilà, elle est en retard. J'aurais souhaité effectivement commencer par les dames, mais on la présentera après. Damien, peut-être te présenter un peu ton métier de journaliste depuis quand ?
Alors,
à France 3.
Je vais passer certains chapitres, hein, parce que... Les années s'empilent, on va dire que je suis, pour faire simple, à Grenoble, en tout cas depuis une vingtaine d'années. Et en particulier, on y reviendra peut-être, sans doute, enfin moi, pour vous faire part un petit peu de mon expérience, j'ai passé 14 ans, notamment à France 3, dans notre local. On avait une édition locale qui s'est terminée fin 2013, début 2014, qui avait démarré en 99, et qui était vraiment une locale, un journal local sur Grenoble et son agglomération. Donc Grenoble et ses quartiers aussi, dans toute leur diversité. Et donc, depuis la fermeture de cette édition locale, je suis dans la rédaction régionale de France 3, qui est aussi à Grenoble, mais qui couvre les trois départements que sont la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère. Et donc, moi, je suis plutôt journaliste-rédacteur, mais à tendance aussi reporter d'image de temps en temps, puisque j'ai aussi la compétence image. On n'exerce jamais les deux en même temps, puisqu'on a la particularité et toujours la chance de pouvoir exercer notre travail sur le terrain au minimum à deux. Un journaliste, un caméraman, et puis quand on a de la chance, un preneur de son, ce qui arrive encore heureusement assez régulièrement. Donc voilà, moi je suis un petit peu plus sur la culture, on va dire, le société-culture, social et culture. Et après, on est aussi très généraliste à France 3, puisqu'on est des petites rédactions régionales. Donc on est amené à travailler sur tout type de secteur de la société.
Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation des médias avec les quartiers populaires. Bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui de pointer qui que ce soit du doigt, même si on a en tête certains reportages comme celui d'Envoyé spécial qui a laissé des marques, notamment sur le quartier de la Villeneuve. Mais il s'agit surtout aussi de savoir comment vous travaillez, dans quelles conditions vous travaillez et quel est votre rapport à ce type de quartier. Est-ce que quand on va sur différents terrains et notamment celui des quartiers populaires, est-ce qu'on aborde différemment les sujets ou pas ?
Alors là, oui, est-ce qu'on commence à développer un petit peu du coup bon, moi, on va dire que je parle un petit peu... Pour moi, personnellement, après, je partage avec pas mal de mes collègues de France 3 une sensibilité, on va dire, pour les sujets de société, les sujets sociaux. On relaye quand même beaucoup de problématiques sociales, encore un petit peu plus en ce moment, avec cette crise sanitaire. Mais les quartiers, on les a un petit peu désertés, on va y revenir, mais c'est aussi par rapport à notre rédaction. Du temps de l'édition de Grenoble, la rédaction locale, on était vraiment sur le tissu grenoblois. Et donc on était beaucoup plus présents. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup plus de reportages sur les quartiers, on va dire les quartiers périphériques, les
cités. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je voulais justement la fermeture en fait de France 3 à Grenoble, du moins en quelque sorte. L'antenne grenobloise en fait a été fermée. Il y a eu du coup une régionalisation en fait des France 3. C'est ça en quelque sorte qui s'est passé il y a quelques années. Et du coup, ça a induit automatiquement un traitement moindre en fait de l'actualité en local ou pas du tout en fait.
Si, ça a été une des conséquences indirectes. Enfin. De cette restructuration de France 3, c'est-à-dire qu'on a, dans les années 90-95, il y a eu un développement des éditions locales, des éditions de proximité. France 3, c'est une chaîne régionale, avec un slogan de près, on se comprend mieux. Donc, dans la foulée d'M6 qui avait créé des locales un petit peu partout en France, France 3 a aussi développé, en plus de ces 24 régions et les fameux journaux régionaux qui sont dans 24 régions françaises, on avait une quarantaine de locales. Et elles ont commencé à être fermées. Il en subsiste quelques-unes, à Lyon notamment, dans des grosses villes. Mais il y a une politique de restructuration depuis quelques années. Et ça a été effectivement... c'est une des raisons, c'est pas la seule, qui fait qu'on a un petit peu déserté effectivement les quartiers, une certaine proximité, notamment les quartiers urbains.
Non, pardon, excusez-moi, il y a Saléha qui arrive. Je m'excuse, hein, c'est les aléas du... On est en direct. Voilà, Saléha, bonjour. Pour revenir à France 3, en fait, je crois qu'il est bien de préciser parce que du moins, tout le monde ne sait pas qu'effectivement France 3, c'est quand même le service public en fait. Edouard nous en parlera peut-être aussi parce qu'il a travaillé à France Inter et donc c'est aussi le service public. Donc du coup, il y a des restructurations même dans le service public. Il n'y a pas que le privé qui a impacté en fait.
Absolument. Edouard que je salue aussi parce que j'ai été auditeur de Périphérie. Et je peux l'être encore aujourd'hui. Et en fait, on a Brahim citait l'envoyé spécial sur la Villeneuve en 2013. Il faut savoir qu'il y a eu deux émissions qui ont été très très caricaturales. Il y avait eu aussi déjà une émission sur France 3, Pièce à conviction, après le discours de Sarkozy en 2010, qui avait déjà été à charge sur le quartier de la Villeneuve, et rebelote 3 ans après avec cet envoyé spécial. Nous, on a été un certain nombre à la rédaction régionale. On s'est adressé directement à Guylaine Chenu, enfin aux deux journalistes qui présentaient à l'époque l'émission, parce que la journaliste qui s'est immergée à la Villeneuve pour faire ce 26 minutes qui était complètement à charge et caricatural, elle n'était ni de Grenoble, ni de la région, ni même de France Télévisions. C'était une société de production, puisque pour des émissions comme ça de France Télévisions, comme Envoyé Spécial, il y a une partie des reportages qui sont faits par des journalistes de sociétés de production.
Tout à fait. Et c'était le cas justement d'ailleurs sur le Envoyé Spécial de France 2. C'était aussi justement agence de presse qui avait fait le...
Voilà. Alors que Pièce à conviction, 3 ans auparavant, c'était bien une équipe de France 3 du National. Et donc nous, à l'époque... La locale de France 3 Grenoble existait toujours et on a nous réagi à notre façon en retournant à la Villeneuve, en faisant ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la proximité et en essayant aussi de faire parler les gens. Après, il y a des journalistes qui ont réagi et qui ont fait un documentaire. Il y a eu un dépôt de plainte des habitants contre France Télévisions.
On peut souligner ça, qu'il y a eu une réaction en justice de la part des habitants, ce qui est assez rare.
Ouais.
Je pense que c'est peut-être même une première.
Voilà. Je crois que c'était une première. Après,
c'était
en
jamais arrivé.
Ouais, c'était jamais arrivé. Ouais, ouais.
C'est une première. Et en fait, nous la difficulté qu'on a aussi, on va parler de l'espace-temps, mais il faudrait pouvoir s'immerger plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois dans des quartiers, mais en tout cas passer du temps sans caméra, sans micro, etc., pour avoir le temps de discuter, de rencontrer des gens, de voir un petit peu les initiatives. Mais en tout cas, nous, on avait obtenu, après ces deux gros reportages, de faire une série de reportages. Après, ça rejaillit aussi sur nous. Quand il y a un envoyé spécial à charge sur un quartier, nous, médias de télé, même si on est France 3 Alpes et France 3 Grenoble, un média de proximité, par une partie des gens, on nous met un petit peu dans le même sac, quoi.
C'est ça. ça. Il y a des retombées négatives aussi bien pour le territoire, les habitants, tout mais aussi pour votre métier.
Tout à fait. La retombée la plus difficile, elle est effectivement sur l'image qui est véhiculée et qui blesse les habitants. Ce qui explique aussi qu'il y a eu cette mobilisation pour répondre, pour faire une action en justice. Et aussi, il y a eu un documentaire, il y en a même eu deux, je crois, oui, pour démonter un petit peu cette série de clichés. Hein, même si tout, entre guillemets, n'était pas faux, il y a une orientation qui a été décidée délibérément de faire un
reportage à charge.
Et
surtout, c'est pas du tout ce qui avait été présenté par les journalistes lorsqu'ils ont rencontré surtout pour le film, du moins pour la ville, avant l'occurrence, l'envoyé spécial de France 2, en effet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une réaction des associations, parce que beaucoup d'associations avaient ouvert leurs portes aux journalistes d'envoyé spécial. Et en effet, tout a été détourné. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec un reportage qui a malmené par la suite d'ailleurs certains habitants et qui ont mis en difficulté un peu plus ce quartier, encore une fois.
Il y a eu ce documentaire de Flore Viennot et Vincent Massot qui a été fait pendant une année avec les habitants pour un petit peu, entre guillemets, réhabiliter. Nous, c'est un petit peu aussi nos limites. C'est la limite des moyens de s'exprimer autrement que par des reportages, entre guillemets, de news qui font souvent 2 minutes, 3 minutes. On a encore des créneaux un petit peu plus, des 6 minutes, des 7 minutes, mais qu'on peut tourner en une journée, 2 journées, jamais plus, quoi.
Édouard Zambo, du moins, Salaha, rebonjour encore. Hein.
Bonjour.
D'ailleurs, on a fait l'ouverture, mais Édouard Zambo, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, et puis le travail que vous avez fait, du moins, votre CV, il est trop long, en fait. Donc je pense que vous arriverez à le synthétiser plus rapidement que moi. Parce que presse écrite, radio, écrivain, mais allez-y.
Producteur. Cinéma.
Cinéma aussi, voilà. Mais c'est ça, c'est ce que je disais, c'est trop long.
faisons l'économie du CV. Je ne vais pas candidater cette semaine à News FM. Donc...
on n'aurait pas les moyens, je pense.
Vous n'en savez pas grand-chose. Non, moi je suis un artisan journaliste, on va dire, voilà, donc je touche à tout. J'ai fait une quinzaine d'années de presse écrite. Ensuite, j'ai passé un petit moment à la radio entre Radio France Internationale et France Inter. Et puis, je me suis aventuré effectivement vers le cinéma pour un documentaire. Et là, ce qui occupe mes journées en ce moment, c'est que j'ai créé avec un confrère journaliste qui s'appelle Emmanuel Vaillant une structure qui s'appelle la zone d'expression prioritaire où on essaye de rendre les habitants des quartiers populaires et particulièrement les jeunes auteurs de leur propre récit. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est rendu compte que c'était un peu vain d'aller interviewer les gens à la longue, et puis que avec toutes les contraintes que Damien détaillait, et il y en a d'autres, que souvent les gens qu'on va interviewer ont le sentiment d'être dépossédés de leur histoire. Donc on a inversé un peu la façon de faire. Et on essaye de petit à petit. On a sorti un livre au début de l'année qui s'appelle Vie majuscule, qui est sous-titré Autoportrait de la France des périphéries. Et on essaye d'inverser un peu la méthodologie en disant si les gens se racontent eux-mêmes avec leurs mots et que nous on met une technicité à leur service, ils se retrouveront plus dans ces récits-là et par petites touches s'adresse un portrait du pays dans lequel on vit et des habitants de ces quartiers, voilà. Donc en ce moment c'est ça, mais effectivement j'ai passé presque 15 ans à France Inter avant de me faire foutre dehors parce que la question qui était finalement résumée dans le titre de mon émission qui s'appelait Périphérie n'intéressait plus la direction, quoi.
Mais c'est pas simplement en fait des questions budgétaires, non, c'est vraiment parce que ça n'intéressait pas.
Moi, les mots qui m'ont été dits, ils sont très simples. Hein. La directrice de France Inter m'a dit « Je veux un autre regard que le vôtre ». Donc, ça veut dire que ma façon de regarder les quartiers, qui est effectivement, et je l'assume, bienveillante et curieuse, ne semblait plus être... voilà. Mais d'ailleurs, j'ai jamais été remplacé dans cet objet-là. C'est retombé, ce que décrivait très bien Damien, c'est retombé dans le traitement quotidien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal traité, mais c'est traité que sur des tout petits formats, une minute, deux minutes, 50 secondes, parfois même en radio. Et puis, avec une contrainte qui est une contrainte très forte d'actu. Et que j'avais, moi, plutôt la volonté, avec un rendez-vous hebdomadaire qui s'inscrivait dans une durée certes limitée, mais quand même, d'avoir ce qu'on appelle journalistiquement un traitement plus magazine, et donc de m'extraire d'une temporalité immédiate et d'essayer de rentrer dans le sujet plus avec des postures thématiques. Et puis ça me laissait le temps de fureter, de traîner, d'aller chercher des sujets, de ne pas attendre qu'ils arrivent à moi. C'est surtout ça le problème, je pense, du traitement médiatique des quartiers populaires, c'est que tous les journalistes le savent, je veux dire, on est sollicité en permanence, sursollicité en permanence, mais sauf par les habitants des quartiers populaires qui n'ont pas d'attaché de presse par voie de conséquence. Et que donc, quand le regard médiatique se porte sur eux, c'est en général parce que ça va assez mal et qu'il y a des gros problèmes, et que donc on a un traitement assez biaisé des quartiers populaires. En gros, pour le dire vite, dans 90% des cas, on va traiter les banlieues, c'est dangereux, pour le résumer vraiment à la hache. Et puis, de temps en temps, il va y avoir une petite prise de conscience de la rédaction en disant « Oh là là, on les maltraite un peu quand même », etc. Et à ce moment-là, il va y avoir un retour de balancier tout aussi irresponsable qui va vouloir qu'on traite les quartiers sous le prisme du merveilleux. Mais les quartiers populaires, ça n'est ni dangereux ni merveilleux. C'est juste une réalité qui regroupe un petit 10% de la population de ce pays, ce qui est quand même pas tout à fait anecdotique quantitativement parlant, et dans lequel il se passe à la fois des initiatives, des innovations. Enfin, vous êtes à Grenoble, on peut très bien dire que sur le terrain éducatif, une des très grosses innovations de ce pays a été le lycée autogéré qui s'est installé à la Villeneuve. Il y a quelques années, et voilà, et on peut très bien aller à la Villeneuve pour parler d'une éducation, d'un mode, d'un opératoire pour des lycéens qui fait un pas de côté. On n'est pas obligé d'aller parler de la Villeneuve simplement pour parler trafic de drogue, quoi. C'est tout, mais et ça, c'est une question de temps.
La diversité au service public, du moins, parce que pardon, mais du coup, c'est vrai que si on veut que, du moins, c'était un peu le sujet d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut en effet qu'il y ait un traitement différent, il faut aussi que justement il y ait des journalistes qui intègrent les rédactions et qu'ils soient différents, ou en tout cas qu'ils émanent des quartiers populaires. On en parlait hier avec La Chance, qui a justement cet objectif, c'est de former des jeunes pour intégrer des écoles de journalisme. Aujourd'hui, du moins, de votre vision à vous quand vous étiez à France Inter, ça existe du moins, la diversité
Oui. Moi qui ai passé 10 ans à RFI, je sais ce que ça veut dire la diversité.
Oui, RFI, oui, moi aussi je vois ce que voilà. C'est RFI. Donc
un journaliste noir à RFI, c'est normal, c'est basique, c'est banal. Dans d'autres médias, c'est pas, on n'y est pas encore. Maintenant, il faut faire attention à une chose. Il faut faire, à mon avis, très attention à ce qui deviendrait un journalisme d'assignation. Les journalistes issus des quartiers populaires ne sont pas obligés de s'intéresser à la question des quartiers populaires. Bien moi, sûr. Je n'en suis pas issu. Je suis un enfant de la bourgeoisie. J'ai un diagnostic journalistique qui m'a fait dire que j'avais envie de m'intéresser aux quartiers populaires. Je l'ai fait par choix. Et je l'ai fait par choix éditorial. Si demain, on va chercher des journalistes issus des quartiers populaires pour lesquels on va inventer des dispositifs particuliers pour ensuite les astreindre à traiter cette information-là, on aura tout faux, de A à Z, quoi. Ça fait plus sens que les journalistes issus des quartiers populaires, et je ne sais pas trop ce que ça veut dire, deviennent chefs du service politique, ou commentateurs sportifs, ou je ne sais quoi, n'importe quoi.
Pour moi, c'était surtout en fait
ce qu'ils ont envie de faire.
Pour moi, c'est des trucs qui intègrent la rédaction, en fait. C'est pas tant, effectivement, de les cantonner à aller faire des sujets sur les quartiers. Mais si on veut, effectivement, que la vision change des médias, mais bon, c'est un doux rêve.
C'est un doux rêve. Mais malheureusement, je veux dire, les études de journalisme sont probablement une des filières qui est économiquement la plus excluante. De un, ça coûte assez cher comme étude. De deux, on rentre dans un environnement professionnel qui est ultra précarisé. Ça veut dire qu'en gros, il faut être capable d'assumer le fait de faire minimum un bac plus 5 pour gagner un salaire qui est inférieur à... Enfin, c'est 1700 balles, un salaire d'embauche dans l'audiovisuel public. Donc, voilà, il faut voir aussi, et que donc, en gros, il y a majoritairement les enfants de la bourgeoisie qui peuvent avoir le filet de protection qui leur permet de prendre ce risque.
Saléha, est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'on ne t'a pas présenté encore.
Oui, moi, c'est Saléha Benarbia. Je suis journaliste au Dauphiné Libéré depuis maintenant plusieurs années. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Qu'est-ce que tu fais au Dauphiné Libéré?
Moi, je suis au Dauphiné Libéré maintenant. Pendant 15 ans, j'étais à la locale de Grenoble, donc toute la problématique des quartiers, je connais parce que j'y suis allée volontiers un peu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre, parce que c'est, voilà, quand on est journaliste et quand on a envie d'aller voir ce qui se passe dans les quartiers populaires, eh ben, il faut avoir envie de le faire, il ne faut pas être forcé et il ne faut pas être issu forcément des quartiers populaires. Moi-même, je ne suis pas forcément issu de quartiers populaires, je suis née dans une petite ville dans la Drôme, donc... Mais voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Donc quand j'étais à la locale de Grenoble, je m'intéressais au quartier, mais je m'intéressais en fait pas simplement parce que c'était des quartiers populaires, je m'intéressais à tout. Ça fait partie de la ville de Grenoble. La ville de Grenoble a 22 quartiers. Il se trouve que la Villeneuve, le Mistral et les autres quartiers qu'on dit populaires en font partie. Il n'y a pas de différence à faire en réalité. Pour moi, c'est déjà de dire que les gens de quartier ou les gens de quartier populaire, c'est déjà plus ou moins les discriminer. C'est même carrément les discriminer. Et donc c'est vrai que moi, mon travail, ça a été de faire des sujets de tout, de la locale, de la politique, du conseil municipal et aussi aller dans les quartiers. Et c'est vrai que la difficulté, c'est le temps en réalité. C'est de prendre le temps de connaître... les gens, les associations, les personnes, les habitants, et prendre le temps, ça prend du temps, et on a un journal à boucler tous les jours, et donc là on est un peu limité. Donc moi, pendant 15 ans, j'ai fait ça. Maintenant, je suis beaucoup plus axée sur, puisque le journal évolue, le Dauphiné Libéré, c'est un journal papier, mais forcément la société a beaucoup évolué, donc on est aussi vers le numérique. Et donc, je travaille aussi sur le site du Dauphiné.
La version numérique du site internet.
C'est ça.
D'accord. Et des études.
Alors moi, avant mon parcours.
Toi, ton parcours. Donc, comment on arrive.
Comment je suis arrivée au journalisme, oui. En fait, par hasard, en fait, parce que pour moi, je savais même pas du tout ce que c'était vraiment quand j'étais jeune. Je suis venue au métier vraiment par hasard. Au sortir de mon bac mathématiques et philosophie, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai entamé des études de lettres modernes, parce que j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup les auteurs, les grands auteurs, la littérature, j'adorais ça. Donc voilà, j'ai fait lettres, mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et donc, première année, deuxième année, troisième année, toujours pas. Donc je me suis dit, je vais être professeur des écoles, parce que je pense que c'est bien, il faut... avec les enfants, enfin voilà, inculquer un peu le savoir aux enfants. Je me suis dit que ça pouvait me plaire. J'avais pas non plus une grande vocation. Alors un jour, je terminais ma maîtrise, je rencontre une copine à qui je disais que j'en avais marre du job d'été, d'aller aux pêches et d'aller faire les fruits, c'était insupportable. Et elle me dit, mais moi je pige. Je lui dis, mais je pige, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprenais même pas.
Elle avait tout pigé en fait.
Ouais, moi je pige. Et en fait, elle pigeait et elle m'expliquait qu'elle travaillait à la pige, elle écrivait pour un journal et elle allait à droite à gauche. On l'envoyait pour faire des expos, pour faire une inauguration par-ci par-là, les rencontrer, tout ça. Et puis ça m'a fascinée en fait. Je me suis dit, mais c'est super comme boulot. C'était pas très très bien payé, mais j'ai trouvé ça super. Donc pour pas la gêner elle, je suis allée au journal concurrent qui est le Dauphiné Libéré. Et j'ai commencé comme étant correspondante locale de presse. Et quand j'ai vu que c'était vraiment un métier génial, il correspondait à ma personnalité, puisque je déteste la routine, parce que je suis hyper curieuse, parce que j'aime bien l'écriture, et puis j'aime découvrir, aller à la rencontre des gens, et ben je me suis dit, mais c'est fait pour moi en fait. Et donc j'ai entamé des études de journalisme. Et puis ça aide quand on est correspondant local de presse, on nous connaît, voilà, on sait à peu près comment on est. Et du coup, j'ai été embauchée peu de temps après au Dauphiné. Voilà comment ça s'est passé. Et vraiment, c'est un métier, oui, il est fait de précarité, oui, il est difficile, mais il est génial, quoi. C'est magique d'être journaliste. Un jour, vous êtes avec un grand professeur. À Grenoble, on a de grands chercheurs, comme le professeur Benhabib, par exemple. Puis le lendemain, vous êtes avec... Un homme qui est au RSA et qui vous raconte sa vie, son quotidien, et ça vous permet d'avoir du relief. C'est un métier vraiment formidable. Donc c'est dommage qu'il ait une mauvaise image. Voilà, en tout cas, c'est très passionnant. C'est très prenant, c'est vrai, mais c'est vraiment passionnant.
Merci.
Question pour vous tous et toutes. même si...
Oui, je suis toute seule.
Même si tu es toute seule, oui. Quand on décide d'aller sur un quartier comme Mistral, par exemple, comment on s'y prend comment on travaille? Est-ce que, Damien, tu arrives avec ton équipe? Tu nous as parlé de toute une équipe, caméra, micro, etc. Comment on travaille aujourd'hui? Est-ce que vous avez des contacts sur le quartier? Vous pouvez travailler sereinement?
Ben Brahim, tu es un de nos contacts privilégiés sur le quartier, tu le sais. En fait, il y a Mistral et Mistral, moi je dirais, parce que il y a, je sais plus, 2 semaines à peu près, j'étais au lycée Vaucanson avec des élèves de bac pro, donc il y a un prof de physique un peu original qui fait de l'astronomie avec ses élèves et qui est en train de monter un gros projet de bande dessinée avec 2 super auteurs de BD. Pour moi, le lycée Vaucanson, c'est presque Mistral, ça jouxte Mistral, on est à 100 mètres. J'étais ici même au Prunier Sauvage il y a quelques mois sur un docu-concert avec des artistes en résidence, et Dieu sait si c'est important de montrer que les artistes créent, travaillent en ce moment, même s'ils ne peuvent pas rencontrer le public et même s'ils ne peuvent pas partager, et nous non plus avec eux. Donc voilà, et après, sur le quartier en lui-même, moi c'est vrai que ça fait plusieurs années, enfin, que j'ai pas fait un reportage
typiquement dans le quartier,
avec les habitants de Mistral. Quand je dis des années, je vais en trouver un, oui, en 2019 je pense, il y avait à Boufal ce compteur, on était au plateau, donc structure... voisine jeunesse. Du Prunier Sauvage.
Structure jeunesse, ouais, du quartier Mistral.
Voilà, jeunesse du quartier Mistral, sur toute une soirée, sur l'histoire du quartier, ses habitants, etc., avec une rencontre entre 2 conteurs, dont Aboufal, grenoblois-sénégalais. Voilà, mais bon, on a eu effectivement ces dernières années des moments un petit peu plus compliqués dans le quartier, sur des tournages, enfin... Qui font que c'est un petit peu compliqué. Des fois, on a envie de venir, mais on se pose quand même la question, est-ce que ça va bien se passer? Et alors, c'est aussi notre responsabilité d'un côté, c'est-à-dire je pense que c'est aussi parce qu'on vient plus assez souvent, qu'on a moins d'interlocuteurs, qu'on est moins connu des habitants, des gens, tout simplement. Et qu'il peut y avoir forcément un débordement, parce qu'une équipe de France 3, c'est une télévision, donc il y a une grosse caméra, il y a un micro, on est très vite visible, et si on ne vient pas discuter avec nous pour savoir pourquoi on est là, quel type de reportage on est en train d'élaborer, de tourner, voilà, il y a une toute petite frange de la population, micro, qui est gêné de la présence de journalistes, on le sait tous. C'est valable à Mistral, mais ça peut être valable dans certains quartiers du centre-ville. Ça peut être valable à Mélan aussi, qui est une commune du nord-est de Grenoble, qui est beaucoup plus socialement privilégiée. Donc voilà. Mais on a eu quelques petites expériences un petit peu tendues avec certains jeunes qui n'étaient pas du tout heureux qu'on vienne tourner sur le quartier.
Une certaine défiance à l'encontre de l'image, en fait, surtout, j'ai l'impression.
Oui, alors après...
Mais Salah nous racontera après son expérience.
Oui. Moi, je peux aller plus précisément. J'ai un exemple de tournage. On tournait la démolition des bars Strauss, ces grosses bars tout près du Prunier, là, hein, qui étaient dans le cadre d'une réhabilitation du quartier, il y a quelques années. Et donc on tournait le matin, donc c'était, voilà, on fait des interviews super avec des anciens qui nous racontent que c'est le premier immeuble dans lequel ils ont vécu, avec la mixité sociale, le voisinage, etc. Et puis le gars qui grignotait petit à petit la barre d'immeubles qui nous parle carrément depuis sa pelleteuse. Tiens, quand je vois ces morceaux de tapisserie qui restent, je suis en train de grignoter ces appartements. Moi aussi, j'ai vécu ici et ça me fait quelque chose. J'imagine tous ces gens qui ont vécu là. On recueille des témoignages qui sont, comme souvent dans les quartiers et dans les quartiers populaires, forts. Les gens ont une spontanéité, enfin moi j'ai toujours trouvé à nous parler dès que la confiance elle est là. Et voilà, et puis ben, les derniers plans qu'on a voulu faire vers midi, il y avait le marché, voilà, on a été pris à partie assez violemment par 2-3 jeunes, bah, parce que voilà, notre présence gênait, mais on n'a pas eu le temps d'expliquer pourquoi on était là. Mais c'était assez violent la confrontation, donc voilà, après ça refroidit forcément. Et bah ouais, moi je vous cache pas qu'il y a certains collègues qui ont un petit peu la trouille, et moi ça peut m'arriver d'aller dans certains coins aujourd'hui.
Ça a l'air ton expérience.
Alors, mon expérience, déjà, moi, c'est beaucoup plus simple, effectivement. J'arrive pas avec une caméra.
Un stylo, ça se cache
voilà,
facilement.
Un stylo,
hein.
Un petit carnet, ça, on voit pas. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, sur Mistral, le passage un petit peu où c'était un peu plus facile, effectivement, c'est sur les réhabilitations, parce que le quartier, ça fait des années qu'il est en réhabilitation, qu'il est en démolition, donc ça nous permet d'aller rencontrer les gens. Ils veulent pas quitter leur quartier. On critique les quartiers, mais les gens qui y habitent adorent leur quartier. Quand ils quittent le quartier, ils sont malheureux comme tout. Et ça, moi, je trouve que c'est fort comme parole. Effectivement, moi aussi, j'en ressors toujours à chaque fois que je vais dans un quartier, que ce soit Mistral, Villeneuve. J'en ressors toujours beaucoup plus riche que quand je suis rentrée. Donc, j'y viens toujours avec plaisir. Maintenant, bien sûr, je sais très bien que dans le quartier, c'est pas évident, que on peut gêner des gens, des choufs. Enfin, voilà, il y a des personnes qui sont là et qui peuvent être gênées par notre présence. Eh ben, moi, j'y vais de manière un peu discrète, en fait. Puisqu'on ne voit pas ma caméra, ben, je vais à la rencontre, à droite, à gauche, de personnes. Et effectivement, quand on a tissé un lien, notamment avec le plateau, c'est quand même un passage obligé, plein de gens y vont. Quand on tisse des liens avec les gens, ben, les gens ont confiance. Et à partir du moment où la confiance est là, et ben, c'est déjà un peu plus facile. Mais effectivement, il y a de l'appréhension, beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus radical et violent, en fait. La violence, elle peut arriver très, très, très rapidement. Et qu'on soit journaliste ou pas, en fait. Aujourd'hui, on n'est pas protégé. Donc, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ça, avec Damien. Mais je crois qu'il faut tisser, il faut continuer à tisser, aller à la rencontre des gens et aller les connaître. Je crois pas qu'il y ait d'autres recettes.
Mais okay. juste pour ajouter par rapport à ce que tu disais, Salia, moi quand je dis qu'on peut avoir une appréhension de venir filmer dans un quartier comme Mistral, enfin dans un certain contexte évidemment, je parle même pas s'il y a eu un drame ou là forcément c'est beaucoup plus compliqué, mais je veux surtout pas que ce soit quelque chose de j'ai eu beaucoup aussi de mal sur certaines manifestations des Gilets jaunes où on a été clairement menacé, oui. Je veux dire il y a plein
plus encore,
il y a oui bien sûr beaucoup plus que dans un quartier quel que soit d'ailleurs ou même en centre-ville. Les journalistes, et en particulier, je pense, la télé, parce qu'on peut très vite, il y a une caméra, il y a une équipe de télé, on nous met un petit peu vite tous dans le même sac, on est des journalistes télé, déjà les journalistes, en général, on nous met l'étiquette, vous êtes médias, etc., vous êtes tous les mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que la crainte, elle est pas... elle est sur plein de situations, on a eu beaucoup de menaces pendant le conflit des Gilets jaunes, en particulier dans les centres-villes, quoi. Ouais.
Édouard, vous partagez donc cette analyse sur le rapport conflictuel grandissant dans toutes les couches de la société, d'ailleurs pas que dans les couches populaires, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un fossé qui s'est creusé, pardon ?
Oui, mais je veux dire, il suffit de voir les indicateurs de confiance de la population dans les médias en général et dans la télévision en particulier. J'ai un retour assez bizarre là.
Oui, nous aussi.
Ouais.
Mais on vous entend. Hein.
Vous m'entendez, d'accord. C'est évident que le fossé s'est creusé. Je pense qu'il y a une différence dans la manière de. Ce qui fait la différence, en fait, Essentiellement, c'est quand les gens se posent la question de savoir s'ils vont nous revoir. Est-ce qu'on assume le droit de suite? C'est-à-dire que la majorité des journalistes, malheureusement pour eux, ils en sont les premiers à le regretter, ils vont faire un sujet et puis c'est un sujet sans lendemain. Donc, ils ont pas à assumer une sorte de responsabilité morale ou éditoriale. Ils rentrent, ils publient leur truc, et puis, chapitre suivant. C'est ça l'intérêt d'être un rubricard, ce que j'ai défendu pendant des années à France Inter. C'était ma particularité. C'est-à-dire que j'étais attaché à un territoire. J'ai toujours refusé de que ce soit le magazine des quartiers, hein, périphérie, parce que c'était plus une posture, une façon de regarder les choses, d'essayer de décentrer. On peut être à la périphérie de tout, finalement, c'est ce que je défendais. Mais effectivement, je me retrouvais géographiquement souvent à arpenter ces territoires. Mais les gens, je les revoyais. Donc s'ils étaient en colère contre moi. Et c'était moi qui avais à assumer ça. Et donc, ça décollectivisait, si vous voulez, la responsabilité. Et quelque part, ça a engagé plus fortement la mienne, parce que je savais que si je me moquais d'eux et que je les trahissais, parce que c'est ça le risque, en fait, c'est de se saisir d'une parole et de ne lui donner comme valeur que sa valeur de citation. Et si je me résumais à ça, on va souvent voir les gens pour ce qu'on croit qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils sont. Et notre tropisme malheureux, hein, dans la presse, mais c'est lié structurellement à la nature de notre exercice, c'est qu'en général, on interroge les gens comme s'ils étaient immobiles. C'est-à-dire que quand on va faire un sujet, par exemple, sur la pauvreté, on ne va poser... Le risque, c'est de ne poser aux gens que la question de leur pauvreté. Mais eux, ils se voient plus pauvres demain. Ils s'imaginent, ils sont sur des processus qui sont des processus de transformation. Et si ces processus, on ne les interroge pas, si on ne les voit pas dans le temps, si on n'a pas un droit de suite en quelque sorte, ils ont l'impression qu'on vient, en gros, pour caricaturer, les photographier sous leur carton. Mais eux, c'est pas comme ça qu'ils ont envie d'être vus. Ils sont à un moment où, effectivement, ils habitent dans la rue. Mais ils n'habiteront pas toute leur vie dans la rue. Moi, je me suis rendu compte de ça de manière très manifeste, parce que vous m'engueuliez sur mon CV.
Non, je ne vous engueulais pas. Je vous ai remarqué que vous aviez un CV qui était très long. C'était plutôt un compliment.
j'ai pu passer presque 3 ans pour un documentaire pour le cinéma dans un centre d'hébergement d'urgence qui accueillait des familles. Et ça m'a forcément, sur un exercice de cette longueur-là, amené à beaucoup m'interroger. Je l'avais déjà fait, mais peut-être à formaliser un certain nombre de choses et de postures. Et que c'est très, très, très important, je crois, de regarder les gens sur des trajectoires et non pas, de les figer à un instant T. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à sortir de la photographie qui consiste à dire, voilà, alors parce que on va aller les voir dans les quartiers populaires en leur disant, il y a du trafic de drogue, c'est dangereux, mais je vis pas dans le trafic de drogue tous les jours, monsieur. Et effectivement, on peut parler de ça si il s'agit pas d'occulter. Hein. Attention, il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que les journalistes n'ont aucune responsabilité pour réhabiliter l'image des quartiers populaires. Là, on se trompe. Je veux dire, il y a des travailleurs sociaux pour ça, il y a plein de choses, il y a des élus, il y a plein de gens dont c'est la responsabilité. Nous, on a une petite responsabilité qui est déjà suffisamment grande, c'est de ne raconter que ce qu'on a vu. Voilà, et donc de pas fantasmer. Et que le problème, et ça a été abordé par Damien au début, je veux dire, avec cette litanie, il a parlé, il a été sévère avec sa chaîne en parlant effectivement d'envoyé spécial et du sujet France 3. Mais on pourrait égrener la liste avec le sujet d'Harry Roselmack à Sevran, le bar soi-disant interdit aux femmes à Sevran, la légende urbaine qui s'est construite autour de Trappes, etc. Je veux dire, des territoires qui ont été stigmatisés et enfermés dans une image univoque de leur réalité, on les compte par dizaines. Et c'est ça qui est gênant avec le traitement médiatique des quartiers populaires, c'est qu'on fige. On fige les choses comme si elles étaient irrémédiablement bloquées dans une situation. Voilà. Et il n'y a pas que la rénovation urbaine qui change la réalité. Il y a plein d'acteurs locaux, il y a plein de gens. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe concrètement et là, c'est particulièrement vrai pour les médias audiovisuels. Le temps qu'une conférence de rédaction ait lieu, 8h du matin, 9h du matin, que l'équipe se déplace, aille sur place, elle arrive, elle peut matériellement commencer à tourner ses premières images à 9h30 ou à 10h. À 10h, les gens qui travaillent, ils sont partis. Donc forcément, on a une représentation de la population dans le quartier qui n'a rien à voir avec la sociologie. Voilà, moi je me souviens d'avoir fait à l'époque de France Inter, je m'obligeais à prendre le premier bus, celui de 5h25 je crois, qui emmenait les mamans qui bien souvent allaient faire des ménages à la Défense et qui quittaient Clichy-sous-Bois. Le premier bus, à l'époque Clichy n'avait pas le tramway, c'était complètement enclavé. Le premier bus, celui de 5h29, c'était la diligence. Enfin, c'était le moyen de quitter le quartier et c'était que des travailleurs qui étaient dedans. Et effectivement, 4 heures plus tard, on ne voyait plus les mêmes gens dans la rue. Mais il faut aller à ces différents moments. Et on en revient à la question fondamentale et perpétuelle qui est celle du temps. Du temps que les grands chefs à plumes nous donnent. Et ils sont très, très économes de notre temps. Enfin, ils ne sont pas très économes de notre temps, mais ils voudraient qu'on mette beaucoup de choses dans peu de temps. Mais que tant qu'on n'aura pas cette capacité à traîner, à flâner, à perdre un peu de temps, à observer, à vivre des cycles, le journalisme, c'est quand même s'intégrer dans des cycles de vie. Et que si on ne voit que une toute petite partie infime du cycle, on ne peut pas prétendre raconter la complexité d'une réalité. Et c'est, voilà, et c'est tout ça qui est compliqué dans l'exercice du journalisme à destination et dont l'objet est les quartiers populaires. Et puis, je pense aussi qu'il y a une dernière chose, et puis je suis très bavard, j'arrêterai après, mais il y a une autre chose, c'est que nous avons journalistes, une responsabilité. Nous sommes des médiateurs, c'est-à-dire que nous sommes des passeurs, et que il faut aussi faire attention à la manière dont nous reproduisons la parole. Et forcément, quand on va faire une interview, là je parle essentiellement pour l'audiovisuel, mais c'est aussi vrai pour l'écrit, quand on va faire une interview à la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, on sait qu'on aura en face de nous 577 personnes qui sont habituées à l'expression médiatique, qui en connaissent les codes, les usages, les ficelles et les petits tours. Quand on va faire une série d'interviews dans un quartier populaire, on va se retrouver confronté à des gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Alors, peut-être certains l'ont, mais la majorité ne l'ont pas. Et que si nous voulons les faire apparaître de manière digne, vraiment, le mot digne est très important, il nous faut avoir le souci de rétablir une équité médiatique. Il y a beaucoup plus de travail technique, d'écriture, de montage, de réécriture, de post-production, quand on veut donner la parole, quand on veut apporter sur la place publique la parole de gens qui n'ont pas l'habitude de la prendre. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut inventer des dispositifs. Je vous parlais de la zone d'expression prioritaire que j'ai créée avec Vaillant il y a quelques années. C'est exactement ça l'objet médiatique, rétablir l'équité médiatique. Parce que sinon, je vais encore t'enfermer dans une soi-disant langue qui serait la tienne, qui te rendrait exotique, qui ferait ceci, qui ferait cela. Non, ta parole est intéressante, mon métier de journaliste est de t'aider à l'élaborer pour qu'elle ait la même valeur que les autres. Et ça, c'est très important. On a cette responsabilité parce que ce passage-là, il passe entre nos mains. Et que si on laisse les jeunes des quartiers apparaître dans les médias à base de « Zarma, nique ta mère, nique la police », on n'est pas correct avec eux.
C'est sûr.
Oui, d'ailleurs,
que je suis bavard.
C'est vrai que vous êtes bavard, mais en fait, c'est vrai que la question en fait du projet de la zone d'expression libre nous intéresse. Vous pouvez nous en parler un peu plus longuement.
Prioritaire. Ouais. Ouais, mais je vais encore monopoliser la parole.
Vous avez 2 minutes. Dis-moi, tu as 2 minutes. Ça passe mieux quand je dis tu. Faut savoir synthétiser. Vous avez les codes, vous, hein, comme à l'Assemblée nationale.
C'est vrai.
Ouais, j'essaie de les avoir, mais là tu es en train de me voler quelques-unes de mes précieuses secondes, de mes 2 minutes, donc on remet le compteur à zéro. La zone d'expression prioritaire, c'est une association, c'est un dispositif qui est organisé par des journalistes. En gros, on mobilise des journalistes, pas des journalistes bénévoles, j'insiste là-dessus. Tous les journalistes intervenants de la zone d'expression prioritaire sont rémunérés, parce que c'est un travail, qui vont se mettre au service des publics qui sont les plus éloignés de l'écriture. Essentiellement des jeunes, 90% des gens avec qui on monte des ateliers d'écriture sont des jeunes, des lycéens, des collégiens, école de la deuxième chance, partout dans toutes les structures qui accueillent des jeunes. Et on va simplement leur dire, on y va avec un postulat de départ qui est extrêmement simple, on est persuadé que vous avez des choses intéressantes à le dire, nous allons essayer de vous aider à le faire. Voilà, on peut tout dire mais pas n'importe comment. Donc de quoi aurais-tu envie de parler? Et ensuite, on essaie d'élaborer la construction d'un récit. Alors un récit, c'est pas ma vie, mon œuvre. Un récit, c'est... Nous, on est sur des témoignages écrits à la première personne par des gens qui les signent eux-mêmes. On les publie une fois tous les jours sur notre site, la-zeb.fr. Et puis, la qualité de ces témoignages fait qu'il y a un certain nombre de médias qui ont été intéressés par ce travail. Et donc, on publie une fois par mois une double page dans Libération. On publie une fois par mois une pleine page dans Ouest France. On publie régulièrement des papiers dans Le Monde Campus. On publie des témoignages sur Combini, sur le HuffPost. voilà, plein de médias qui sont venus et qui accueillent cette parole parce que nous, notre objet, c'est de l'élaborer pour qu'elle ait sa place dans l'espace public. Donc, en gros, le processus, c'est on va identifier le sujet, on va t'aider à le faire et on va essayer de lui donner la plus grande résonance.
D'accord. Et ça, donc, plutôt des publics collégiens, lycéens ?
Peu de collégiens, essentiellement des lycéens, des étudiants, des jeunes qui sont accompagnés dans les missions locales, les écoles de la deuxième chance. On a monté un dispositif, par exemple, avec des jeunes hospitalisés. On a fait quelque chose en prison. On a fait des choses avec les régies de quartier. On est en train de mettre un projet de bouquin qui est en route où on va installer des résidences dans un certain nombre de lieux. Grenoble, je sais pas encore, mais je sais qu'on va aller à Villeurbanne.
Ça serait super.
Je pense qu'il y a plein de gens intéressés si vous venez sur Grenoble.
Ça m'intéresserait, hein. Ça c'est sûr. Mais c'est étendu à la France entière ou c'est simplement...
C'est étendu à la France entière, ouais.
Ah ouais, ça m'intéresse. Donc,
mais il y a le site, hein, du coup, tu peux...
Pour vous donner une idée, on fait 700 cycles d'ateliers, 700 ateliers par an.
700 ateliers par an. Du coup, ces ateliers durent combien de temps quand vous êtes dans un lieu?
Alors, en général, un cycle d'ateliers, c'est 4 séances de 2 heures. D'accord. Avec une classe. Mais on développe aussi des ateliers en radio, c'est essentiellement moi qui m'en occupe en ce moment, c'est un peu plus long la radio. Et puis on a aussi un dispositif... On a aussi un dispositif qui est d'installer des résidences, comme on a fait pour le bouquin qu'on a publié en octobre dernier, qui s'appelle Vie majuscule. Je le dis à Célia parce qu'elle n'était pas là tout à l'heure, qui s'appelle Vie majuscule, autoportrait de la France des périphéries. Et où là, on s'est installé 14 semaines dans 14 territoires, 14 territoires en politique de la ville, où on s'est en quelque sorte transformé en écrivain public. Et les gens venaient nous voir, on avait 2 heures d'atelier par jour et par groupe, et on a réussi à convaincre 400 personnes de se prêter au jeu d'écriture, et on a réussi à publier 160 textes dans ce livre.
Toutes les infos à retrouver donc sur le site de la zone d'expression prioritaire, la-zep.fr.
D'accord.
Est-ce que ça arrive effectivement à France 3 ou au Dauphiné que, du moins, c'est vrai que moi ça me parle, hein, ce que me dit Edouard, parce que nous on fait ce travail-là effectivement d'éducation aux médias. Si on veut en effet pouvoir se rapprocher un peu des publics, est-ce que le Dauphiné, est-ce que France 3, il vous arrive ou ça...
Ah bah nous on a, enfin moi j'ai déjà été sollicité au collège, par exemple au collège de la Villeneuve, c'est le collège Lucie Aubrec. Sollicité pour venir parler du média, du journalisme, et on est face à des élèves, des collégiens qui sont pleins de questions, qui sont très très intéressés. Souvent ces ateliers-là, enfin ces moments-là sont très suivis et on nous pose énormément de questions sur les médias. Alors voilà, souvent c'est rigolo, c'est des anecdotes. Est-ce que il mélange un peu tout entre
le salaire,
journal, voilà, le salaire, le et à la télé et quand en fait pour plein de jeunes, de collégiens ou lycéens, dès qu'on parle de journaliste, c'est souvent le journaliste qui passe à la télé, BFM TV, tout ça. Donc voilà, j'essaie de décortiquer ça mais on n'a effectivement pas le temps de. Mais au Dauphiné Libéré, on a un journal. Alors ça s'adresse aux plus jeunes. Pas forcément des collégiens, si ça peut être des enfants, enfin entre 8, 9 et on va dire jusqu'à 12-13 ans. Il y a un journal des enfants où justement ils apprennent à décortiquer l'information. Donc c'est important effectivement, mais on le fait pas de cette façon-là, comme l'a décrit
Edouard.
Et on aimerait bien. Et d'ailleurs, moi, ce que je sais, c'est qu'à la rédaction de Grenoble, il était question, je sais pas si ça va se faire, de décentraliser de temps en temps des réunions de rédaction pour justement aller se poser dans les quartiers, que ce soit Mistral, Villeneuve, pour aller à la rencontre des jeunes, dire bah voilà, nous notre réunion elle se passe comme ça, ils sont les bienvenus évidemment, et on fait notre réunion
prévu, c'est ça?
Oui, alors c'est pas moi évidemment, c'est pas à mon niveau, c'est le directeur départemental qui en avait parlé. Est-ce que alors là maintenant c'est un peu compliqué avec la Covid, mais oui on en parlait beaucoup et on aimerait bien effectivement être beaucoup plus proche. Parce qu'il y a trop de préjugés en réalité.
Mais c'est aussi parce que, pour moi, ça fait le lien avec la défiance que vous exprimiez tout à l'heure par rapport effectivement aux journalistes en fait.
Bah, c'est ça, il y a trop de défiance et quand on nous pose des questions qui sont où on est dans la théorie du complot, où on est affilié au système. Je trouve ça assez inquiétant.
Vous êtes tous des francs-maçons en fait.
Ouais, on est des francs-maçons et puis d'un autre côté, c'est notre faute aussi, on va voilà, c'est à partir du moment où ils ne connaissent pas suffisamment, où on sait qu'on n'a pas suffisamment aussi fait notre boulot et qu'on n'est pas allé suffisamment aller vers eux. Et moi, j'ai trouvé que... Alors, pour revenir un petit peu au sujet de la Villeneuve sur Envoyé spécial, je me suis dit que j'avais peut-être réussi quelque chose le jour où les habitants m'ont appelé pour me dire « on veut parler ». On veut avoir. On vous appelle, on vous sollicite, on veut un droit de réponse.
Il y a eu cet effet à News FM aussi. Hein, voilà. Le lendemain matin, en fait, on avait des appels, on avait fait une émission spéciale. Voilà.
Et c'est ça. Et donc là, on se dit, finalement, on a fait le boulot, on a fait le job, ils sont venus, ils nous ont appelés. C'est que quelque part, il y a une certaine confiance. Et en plus, ils s'adressent une fois de plus à un média, alors que c'est un média qui leur a fait souffrir, on va dire. Donc là, je me dis que, effectivement, la proximité, le travail de proximité au quotidien, ça peut porter ses fruits, mais c'est assez fragile en fait, et donc il faut le faire au quotidien et tout le temps, et par rapport aux questions des jeunes, c'est là où on se dit qu'on est un peu loin de la réalité, parce qu'ils s'imaginent pas que on passe beaucoup de temps à écrire un article, que qu'on vit comme eux en réalité. On n'habite pas leur quartier, mais enfin il y a beaucoup de fantasmes autour du métier
de journaliste. France 3, ça existera peut-être, hein. Du moins, ça n'existe pas encore, ou ça existe peut-être ?
Si France 3 existera... après, France 3, c'est pas le média qui est le plus, plébiscité par les jeunes, quoique... on est souvent caricaturé comme un média qui s'adresse à une classe d'âge...
Vieux. Vieux.
Bah, après, les sondages le disent aussi. Hein. Donc, il y a une grande part de vérité. Mais moi, je sais que même, y compris chez les jeunes générations, notamment... Il n'y a encore pas si longtemps, on a fait le portrait d'un petit groupe de rap de Saint-Martin-d'Hères. Et c'est vrai que c'est drôle parce qu'ils sont toujours ravis d'être filmés par France 3, par la télé, et que regardent plutôt leurs parents ou leurs grands-parents. Après, juste, nous c'est un petit peu plus délicat. On accueille des jeunes en stage, des jeunes souvent de troisième, parfois de première. Moi, quand je croise des jeunes... dans les quartiers qui sont pas les premiers à nous envoyer leur CV ou à nous demander un stage, je leur dis, mais si vous avez envie de venir passer 3 jours dans la rédaction, je vous laisse mon téléphone et venez. Avec le Covid, là, depuis un an, c'est un peu compliqué. On peut pas recevoir de jeunes dans la rédaction, mais on adore ça. Et quel que soit nos âges, quel que soit ces... Voilà.
Et ils sont étonnés de savoir que tu... Enfin, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais quand on leur dit, mais pas de problème, moi, je te prends en stage, ils sont étonnés. Ils disent, je peux venir.
Ils ont bien compris.
De l'extérieur, on a l'impression que ils ont l'impression qu'on est dans une forteresse, alors que non. Puis,
ils sont pas de
leur place. Et puis c'est bien aussi de leur faire découvrir l'envers du décor, qu'est-ce que c'est qu'un montage, qu'est-ce que c'est qu'un travail d'équipe aussi, et puis qu'est-ce que c'est que ce tamis qui fait que nous, on va tourner une demi-heure de rush dont 10-15 minutes d'interview et qu'on va ramener ça à 2 minutes ou 1 minute 45, ce qui est souvent caricatural, mais pas toujours. Mais ce qui explique aussi des fois des choix, des fois des un peu partiaux. Mais voilà, après, on n'est pas dans le même espace-temps que ce que nous disait
Edouard
et ce que tu fais en ce moment, Edouard, et ce que tu as fait avec Périphérie pendant des années. Nous, on a eu aussi cette belle émission, mais là, je remonte à bien plus loin, Sagacité,
dans les années
90, qui était une émission superbe, qui a été virée du jour au lendemain, comme nous fabriquions à Grenoble le magazine Montagne, à la même période, qui était un magazine sur les territoires de montagne. Pas seulement les Alpes, mais toutes les montagnes de France et des Dom-Tom. Mais voilà, et Sagacité, c'est parti du jour au lendemain, alors que c'était une émission fabuleuse où on prenait le temps, les collègues qui faisaient cette émission prenaient le temps de montrer la vraie vie des quartiers avec ce bien précieux qui est le temps qu'on peut avoir à consacrer à ces...
Parce que là, en effet, très souvent, vous êtes dans l'urgence.
Tout le temps.
C'est un peu ça le problème, en fait, aujourd'hui, dans les médias aussi. C'est que on doit traiter de l'information le plus rapidement possible. Et c'est ce qui amène, en fait, parfois à des dérives. Et surtout, le mea culpa, on a l'impression qu'effectivement, il y a le droit de réponse, que les personnes, mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'effectivement, ils ont un droit de réponse.
Oui,
c'est aussi ça, un peu, cette défiance, elle vient aussi de là. C'est que très souvent, comme on traite dans l'urgence, on donne une information, on n'a pas vérifié, et ça amène parfois des drames en fait. Et ça
alors non, enfin moi je dirais pas ça. On est dans l'urgence parce que on suit l'actualité et en fait on est toujours à la course en fait. On fait la course parce que l'actualité nous rattrape très très souvent. Et donc on est là. Nous on dit souvent on va parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On va parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On va pas parler des trains qui arrivent à l'heure. Et ça c'est dans notre essence en fait. Oui, et donc forcément on est rattrapé par ça. Et lorsqu'on a pris un rendez-vous, par exemple, on a pris rendez-vous, on se dit on va prendre le temps, on va faire un sujet magazine. Il suffit qu'une actualité, elle est prioritaire en réalité.
Oui, il y a cette question du temps, de l'actualité, mais ce que j'entends aussi dans ce que disait Édouard Zambeau, ou même au sujet de périphérie, hein, ou même sagacité, ouais. Et pour revenir encore à Envoyé spécial, où la procédure judiciaire a permis aux habitants de voir qu'il y avait une vraie commande d'envoyé spécial sur une ligne éditoriale bien précise. En fait, ça n'était pas juste le problème de la journaliste qui est venue à Villeneuve. Il y avait aussi une commande de
la rédaction.
De la rédaction.
C'est-à-dire que tu veux dire que
c'est-à-dire qu'il y a une volonté.
Angle. C'est ça, l'angle que l'on choisit.
Je veux dire, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a un angle, il y a une ligne éditoriale. On ne veut pas, comme c'était le cas, comme l'a dit très bien Édouard Zambeau tout à l'heure. Peut-être qu'on veut changer de regard et pas avoir un regard si bienveillant que ça.
Tout à fait, mais alors il y a deux choses. C'est vrai, si on demande un angle plutôt fait divers, sensationnel, eh ben on va aller chercher ce sujet-là et on va tout faire pour qu'on ait du sensationnel. Moi, nous, notre point de vue, en tout cas, on ne fait pas ça. On peut pas. De toute façon, on ne pourrait même pas se permettre de faire ça. À partir du moment où on est un journal local et on est proche de la population, le lendemain, il viendrait et il nous demanderait des comptes. Donc, et puis, ce n'est pas intéressant en réalité. Donc, c'est vrai que selon l'angle que l'on choisit, effectivement, bah, ça dépend du résultat.
C'est sûr que c'est plus difficile pour vous, les rédactions locales. Moi, je pensais surtout
national.
À ceux qui sont à Paris.
Ouais, en haut, mais par contre, le résultat, il est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, négatif pour vous dans vos rédactions locales.
Pour l'ensemble de la profession.
Oui,
en fait.
Parce que d'un côté, on va dire qu'effectivement, c'est préjudiciable. Ça reste des journalistes, donc comment on se positionne? On essaye de dire que bah, nous, vous le voyez au quotidien. Moi, j'ai apporté le journal pour montrer, en fait, dans un journal, il n'y a pas que des faits divers. Et on ne parle pas que des quartiers, du plan négatif. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi ce qu'on retient. Il y a aussi ce que les gens retiennent dans le journal. Et c'est quand on a fait des études de lectorat, et on les connaît, le lecteur lit 20 minutes le journal, à peu près. C'est pour ça qu'on a appelé 20 minutes le journal gratuit. 20 minutes, dans les 20 minutes, qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire un peu de tout, mais il va beaucoup lire du fait divers. Et quand on lui demande
ce qu'il a retenu
et ce qu'il aime,
les faits divers.
Il va retenir les faits divers, mais quand on lui demande ce qu'il reproche en fait au journal, c'est de parler trop de faits divers. Alors que sur 34 pages, j'ai un journal là, sur 34 pages, il y a une page et demie de faits divers. Une page, voire une page et demie. Tout le reste, c'est de la culture, c'est du fait de société, c'est de la politique. Alors, et on ne retient pas. Donc,
j'aimerais bien
c'est
poser
important.
Cette question. Du coup, je fais un petit sondage rapide là, avec nos...
On a un peu de public.
On a quelques invités, pas nombreux, vraiment pas nombreux.
D'ailleurs.
Est-ce que vous confirmez, vous, cette appétence pour les faits divers? Youssef.
Approche, tu peux venir, Youssef, en fait. Hein. Tu peux venir et partager le micro avec nous, comme ça tu... Là, c'est un piège de Brahim dans le cadre d'une
c'est
émission en direct.
Improvisé.
Donc, c'était la question.
Alors, l'effet divers, est-ce que c'est quelque chose que... Qu'est-ce que tu lis en Dauphiné, par exemple?
En fait, quand je m'intéresse à tout, la culture, l'effet divers, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps au niveau de la lecture. Et oui, après, il y a des choses qui sont à retenir et des choses, en fait, que vous bâclez assez rapidement. Après, dans l'ensemble, c'est intéressant, c'est assez varié. Et, donc voilà, c'est donc ça.
Donc toi, tu n'es pas un lecteur juste de faits divers.
Non, je pense qu'il faut. Parce qu'après, ça se répercute sur nous, du coup, voilà. Donc sur la personne, on va dire en général. Ah.
Oui, oui, c'est général, anxiogène, ouais, bien
voilà.
sûr.
Voilà,
tout
donc
à fait.
Du coup, voilà, faut vite passer à la culture ou à autre chose, ou au sport, c'est bien aussi.
Hamza.
Moi, je pense, en vrai, concernant les faits divers, moi, je pense que ça dépend surtout de la situation. Si, par exemple, il y a déjà des journaux qui ont publié, justement, sur faits divers, et qu'on veut publier sur le même, et que ça a déjà fait le buzz concernant ce journal-là, je pense qu'il ne faudrait pas essayer d'entrer en concurrence ou d'essayer d'obtenir aussi. Moi, je pense
qu'il faudrait
plus... Alors parler ça. De sujets importants, quoi. C'est-à-dire dès qu'on voit que le fait divers il est déjà pris, ben on
peut ben pas non, mais, je, mais ça fonctionnera jamais. Au contraire, ouais, c'est ce qui fait le buzz en fait. Chacun va y aller, chacun va rajouter une petite phrase.
C'est pas
possible. Mais du moins là, ça c'est la réalité en fait. Hein.
Oui, ça, oui, c'est la réalité. Course à l'info. Ouais,
c'est la course à l'info en fait, ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu ce qui fait justement qui met à mal aujourd'hui la presse, c'est que
c'est qu'on ne soit pas dans la course.
Mais
bah après, ouais, je suis pas trop dans le domaine du coup. Mais en vrai, moi je pense, ouais, c'est ça. De mon point de vue, moi quand je vois les faits divers, et je vois vite fait, je scroll et après je passe à autre chose. Mais quand je vois un sujet important, par exemple, on va dire jeune de quartier, machin, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel dispositif apporter en plus et tout, bah là ça m'intéresse parce que, on va dire, je suis plus sensible à ça qu'aux faits divers. Après, voilà, c'est peut-être de mon point de vue personnel, je proposerais plus un protocole de cette façon-là.
Très bien. Voilà. Merci, Hamza, de ton intervention.
Donc je rappelle, si tu es intéressé par ces questions, donc lazep.fr.
Voilà, bah écoutez, merci pour
juste
ce temps, mais voilà.
Edouard veut rajouter.
Edouard, oui, vas-y, pardon.
Je voudrais juste rajouter un mot sur le traitement. Je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que nos chefs, pour le dire vite, ont une connaissance assez limitée et assez lointaine de ces réalités. Exactement. Et de ces réalités urbaines et sociales. Et que donc, du coup, et ça c'est surtout vrai dans l'audiovisuel, on en arrive à établir, en général, les sujets quartiers, pour le dire vite, c'est un peu le sujet qui tombe sur le stagiaire qui est arrivé il n'y a pas longtemps, le journaliste débutant. Et en gros, on lui donne une to-do list. C'est-à-dire que si... S'il revient de son sujet quartier et que dans son sujet quartier, il n'a pas un travelling ascendant sur une façade d'immeuble, trois jeunes de dos avec des capuches, un peu menaçants, une lumière un peu rasante, etc. À un moment, il y avait les antennes paraboliques qu'il fallait rajouter aussi sur cette liste. Là, c'est passé maintenant les antennes paraboliques. Mais il y a comme ça un certain nombre de cases à cocher. Et que si il a pas ça dans ses images, on va lui dire mais t'as pas fait un sujet banlieue. Donc il est obligé de passer sous les fourches codines de cette espèce de grammaire obligatoire qui n'a ni queue ni tête, mais qui va venir en permanence entretenir ce décorum. Parce que c'est très cinématographique, les quartiers populaires. C'est très beau, c'est très minéral, c'est très vertical, c'est aride, mais il y a beaucoup de contraste. Il suffit que le ciel soit un peu bleu, tout de suite ça pète, quoi. Et donc il y a la tentation de cette image un petit peu extraordinaire. Et puis ce tropisme du journalisme à vouloir faire de l'incroyable mais vrai, quoi. Et que quand on met tout ça dans un petit cocktail et qu'on confie ça à un journaliste pas très aguerri et qui en plus a du mal à se mettre en opposition ou en contradiction avec ses chefs, et ben ça veut dire que ça fait qu'on voit toujours les mêmes sujets.
Alors moi je mettrais juste un bémol parce que c'est vrai que pour le ça marcherait peut-être un peu plus pour évidemment le visuel puisque
c'est ce qu'il disait en fait.
C'est ce qu'il disait. Voilà. Mais c'est effectivement, c'est plus facile. Voilà, oui, tout à fait. Bah, là, je suis d'accord. Parce que pour le journal, c'est moins.
Damien qui est dans le visuel, tu confirmes évident.
Oui, j'ai le. Il voit peut-être pas mon sourire, Edouard, mais bien sûr.
Mais non, je te vois pas, Damien.
Ouais, mais je souris. Je souris et j'acquiesce à ce que tu dis. Moi, juste, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission.
Tout à fait, oui,
moi, j'aime bien le mot qu'a utilisé Edouard tout à l'heure, qui est le mot je pense, qui nous relie tous les trois, qui est celui de passeur. C'est-à-dire qu'on est, simplement des passeurs. Et ce lien fort qui est dans les quartiers, ce rapport fort qu'ont les habitants peut-être un peu plus avec leur territoire que dans des quartiers de centre-ville ou des quartiers qui sont beaucoup plus anonymes, beaucoup plus où les gens vivent plus dans leur entre-soi. Dans un quartier, ce qu'il y a toujours de différent, moi je trouve, c'est qu'il y a, même si elle diminue dans certains quartiers, les habitants nous le disent à chaque fois, il y a quand même cette solidarité, ce vivre ensemble qui existe encore. Et on s'en est aperçu même pendant les confinements, il est plus fort.
Ouais.
Et ben moi, si voilà, j'ai envie de continuer et d'être à nouveau un petit peu plus souvent passeur de ces histoires-là. Et non, moi, on ne fait pas partie de cette autre catégorie de médias qui, eux, ne sont pas des passeurs, mais qui sont plus dans la caricature, dans le sensationnalisme. C'est pas pas nous, quoi. C'est ça doit pas être nous, en tout cas pas le service public,
pas
des gens qui veulent être simplement des journalistes passeurs et traits d'union avec la vie et des gens.
Et en tout cas, on vous remercie, les trois passeurs que nous avons accueillis aujourd'hui.
Et merci d'avoir fait ce genre d'émission, c'est vraiment...
Ben, merci, écoutez, c'était pour nous un véritable plaisir, effectivement. Merci Damien Borrelli, merci Edouard Zambo et Saléha.
Merci.
Merci aussi d'avoir partagé ce temps avec nous. Je vous rappelle, on était en direct du Prunier Sauvage. Le prochain rendez-vous, 16h30, 17h30, les ateliers radiophoniques de la Maison de l'Enfance Bachelard. Et nous aurons aussi une interview avec des jeunes de la MJC Anatole France pour un projet hip-hop. Merci à tous, à bientôt. Merci la technique.
Mais de rien, avec grand plaisir.